Bonjour à vous tous. Content de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Steve a dit, moi je m'appelle Adrien, je suis l'un des pasteurs assistants dans cette église. Et donc si vous êtes là pour la première fois, on est très content que vous êtes là et j'espère que ce message va être un encouragement pour vous. C'était une longue lecture, mais en fait, c'était pas. On va couvrir dans la prédication deux chapitres. On va pas pouvoir examiner tous les détails de ces chapitres, mais on va essayer d'avoir une vue globale de l'ensemble de ces deux chapitres. Mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur, donc merci de prier avec moi. Merci Seigneur pour ta parole, pour l'histoire de Joseph. Que tu puisses me donner de m'exprimer avec fidélité et clarté, et que tu puisses être à l'œuvre par ton Saint-Esprit dans les cœurs de chacun qui est là ce matin. Que tu puisses nous fortifier, nous édifier, nous mettre au défi, et que nous puissions sortir d'ici dans la joie et la paix. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous aimez des histoires de meurtre et mystère. Pour la plupart de l'histoire, c'est la galère et la confusion des fils qui sommellent. Un peu comme ça, des fils qui sommellent sans qu'on puisse en comprendre le sens. Mais il y a toujours ce moment à la fin où le détective arrive à démêler la confusion. Et tout d'un coup, tous les fils de l'intrigue convergent, ça a du sens et il y a une résolution satisfaisante. Et on est impressionné par l'ingénuité de l'écrivain qui a pu diriger tous les éléments de l'histoire. Si seulement la vie était comme ça. Dans la vie, les fils semblent s'emmêler sans qu'on puisse en comprendre le sens. Parfois, l'un des fils semble être prometteur et les attentes sont suscitées. Et puis, déception, c'est une fausse piste. Aucune résolution satisfaisante. Et si cela ne suffisait pas, nous, on est censé croire dans la main d'un écrivain, un Dieu puissant et bon. Qu'est-ce qu'on dirait donc, par exemple, à la famille du pasteur, notre frère Edward Nelson, à Paris, qui est décédé il y a un an, suite à un accident d'alpinisme? Les enfants sans un papa, une église sans le pasteur, à quoi ça sert? Où est la main de Dieu? Des fils qui s'emmêlent et qui n'aboutissent à rien. Et même si nous sommes convaincus que Dieu est puissant et que Dieu est bon, il y a parfois un grand écart entre ce que nous disons être vrai et ce qui semble être le cas en pratique. Et c'est dans ce type de situation que nous retrouvons Joseph dans Genèse 40. Je pense que Joseph sait que Dieu est puissant et que Dieu est bon. Dieu lui a déjà révélé dans deux rêves qu'il allait régner. Et de plus, Dieu a promis à la famille de Joseph, à la famille d'Abraham, qui deviendront un grand peuple dans leur propre pays, béni par Dieu, et une bénédiction pour les nations. Mais qu'en est-il des promesses de Dieu à ce moment? Qu'en est-il des rêves de Joseph? Il a été haï et attaqué par ses propres frères. Il a été vendu comme un esclave. Il est loin de sa famille et du pays promis. Il a reçu, oui, la faveur de Potiphar. À ce moment-là, on se demande, OK, est-ce qu'on voit la main de Dieu à l'œuvre? Est-ce qu'il va libérer Joseph? Et puis non, cela n'aboutit à rien. Il est faussement accusé d'harcèlement sexuel, malgré son caractère exemplaire. Il est jeté en prison. Et on voit le peuple de Dieu brisé par le péché. L'un des 12 fils apparemment perdu, des fils qui s'emmêlent, qui n'aboutissent à rien. Et en fait, dans le chapitre 40, les choses vont de pire en pire. Oui, en fait, le chapitre 40 commence sur une note d'espoir. Donc, si vous avez vos Bibles ouvertes au chapitre 40, c'est très bien. Le chapitre 40 commence avec Joseph, bien qu'il soit en prison, il reçoit la faveur du chef des gardes qui lui a confié des responsabilités. Puis deux nouveaux personnages entrent dans l'histoire, le responsable des boissons et le boulanger, qui étaient des officiers de haut rang dans le service du pharaon. Apparemment, ils avaient commis une offense contre le pharaon dont on ignore les détails. Et le chef des gardes a donc confié ces deux hommes importants à son serviteur le plus fidèle, Joseph. Ah, nous disons-nous, enfin, Dieu est à l'œuvre. Dieu, grâce à cette connexion, Dieu va sortir Joseph de la prison, non? Et en fait, la situation devient encore plus prometteuse. Le responsable des boissons, on va l'appeler Monsieur Vin, et le boulanger, on va l'appeler Monsieur Pain, ont tous les deux un rêve un peu bizarre la même nuit. Les Égyptiens attachaient beaucoup d'importance à des rêves. Il y avait même des interprètes professionnels qui maîtrisaient tout un système d'interprétation des rêves. Et M. Vin et M. Pain, ils soupçonnent qu'il y a une interprétation, mais ils n'ont pas accès à des interprètes et donc ils sont inquiets. Mais Joseph, lui, il a déjà reçu une révélation de la part de Dieu dans la forme des deux rêves qu'il avait reçus lui-même. Et donc, il sait que Dieu peut lui donner l'interprétation. Voici donc dans le rêve de M. Vin, il y avait un cep de vigne avec trois sarments qui représentaient trois jours. Il avait pris les raisins, il les avait pressés dans la coupe pour donner la coupe au pharaon, ce qui signifiait que dans trois jours, il serait rétabli et qui reprendrait ses fonctions. Le texte dit « Le pharaon élèvera ta tête, il sera rétabli. » Et vu que M. Vin a reçu une interprétation favorable, M. Pain se frotte les mains et dit « Ah, moi aussi je vais recevoir une interprétation favorable. » Mais non. Dans son rêve, il y avait trois corbeilles de pain sur la tête qui représentaient aussi trois jours, mais les oiseaux manger le pain, ce qui signifiait que dans trois jours, il serait pendu sur un bois et que les oiseaux mangeraient de sa chair. Dans le texte, c'est littéralement « Le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi ». Aïe, ça va très mal finir pour M. Pain. On ne sait pas exactement, mais on demande est-ce que pharaon a peut-être découvert que Monsieur Pain avait tenté de l'empoisonner, on ne sait pas. On pourrait dire que c'était le boulanger dans le palais avec la baguette. On ne sait pas. Mais Joseph voit ici une occasion à ne pas rater. Il demande à Monsieur Vin de se souvenir de lui et d'évoquer son cas auprès du pharaon. Oui, nous disons-nous, enfin, Dieu est à l'œuvre, il va sortir Joseph de la prison. Ah mais non, M. Vin est effectivement libéré, mais il oublie Joseph. Et que lisons-nous ensuite? Au bout de deux ans, vous voyez là, chapitre 41, verset 1, au bout de deux ans, imaginez cela, Joseph est déjà passé par tellement de souffrances, de déceptions, enfin Dieu semble avoir pourvu le moyen pour qu'il puisse sortir de la prison, et encore deux ans d'attente. Encore une fausse piste, des fils qui s'emmêlent et qui n'aboutissent à rien. Vous connaissez l'expression, quand on laisse tomber quelque chose, on dit « Ah, ça ne peut pas tomber plus bas ». Et Joseph devait avoir l'impression qu'il ne pouvait pas tomber plus bas. Mais en fait, c'est comme si une trappe s'est ouverte sous ses pieds, le laissant tomber encore plus bas. Et peut-être que vous vous identifiez à lui. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On connaît l'histoire. Nous allons voir la fin heureuse dans les semaines à venir, mais c'est dans le chapitre 41 que les fils de l'intrigue commencent à converger. C'est le moment où le lecteur et Joseph commencent à comprendre le sens de l'histoire. C'est le pivot de l'histoire, si on veut. Et voici notre leçon principale ce matin. Quand les fils de la vie semblent s'emmêler sans qu'on puisse comprendre le sens, quand tout semble aller à l'encontre des promesses de Dieu, sachez que Dieu maîtrise tous les détails. Sachez que Dieu maîtrise tous les détails. Il y a des gens très puissants dans ce monde, mais cela n'empêche pas à ce que les choses peuvent aller à l'encontre de leur projet. Pour prendre un exemple fictif, vous connaissez probablement le film « La guerre des étoiles ». On a le grand méchant Darth Vader qui contrôle toute la galaxie, mais cela n'empêche pas à ce qu'une rébellion se lève pour le vaincre. Ou dans l'histoire récente, on a l'Union soviétique qui avait une puissance énorme, mais cela n'empêche pas à ce que le mur de Berlin et le communisme tombent dans quelques jours. Mais Dieu n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Lui, il maîtrise tous les détails. Chaque événement, chaque mot, chaque pensée, chaque décision, chaque atome, le passé, le présent, l'avenir, il maîtrise tout. Rien ne peut échapper à son contrôle. Et les indices sont déjà présents dans le chapitre 40. À premier regard, ce chapitre est encore une fausse piste. Cette rencontre avec Monsieur Vin et Monsieur Pain n'aboutit à rien. Mais Joseph a quand même interprété correctement deux rêves dans ce chapitre. Prédire l'avenir, ce n'est pas le fruit du hasard, ça. C'est un signe que Dieu est aux commandes. Et Joseph sait que c'est le cas. Ces deux rêves, lui aurait rappelé les deux rêves qu'il avait eus lui-même il y a quelques années. Il aurait pu commencer à douter que ses propres rêves étaient vrais. Il aurait pu dire à M. Vin et M. Pain, « Aïe, désolé, je croyais par le passé que Dieu peut prédire l'avenir, mais maintenant je sais mieux. » Mais non, il dit verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Joseph a toujours confiance que Dieu a le pouvoir de révéler l'avenir et que ses propres rêves sont donc justes. Et à juste titre, oui, l'explication des rêves de M. Vin et M. Pain s'avère juste, s'avère exact, et cela aurait renforcé la foi de Joseph. Et non seulement ses propres rêves, mais toutes les promesses que Dieu avait faites à sa famille. Oui, même si les apparences semblent dire le contraire, il sait que Dieu, ce que Dieu a révélé, va avoir lieu. Et nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans ce que Dieu a dit dans sa parole, ce qu'il a promis, même si les apparences semblent dire le contraire, tout ce que Dieu a promis va avoir lieu. Mais Dieu n'est pas seulement puissant pour révéler l'avenir. Ce n'est pas comme si ses prédictions sont justes, mais en fait, les événements eux-mêmes sont le fruit du hasard, comme si Dieu est une sorte de voyant divin. Non, en fait, c'est lui qui fait en sorte que les choses se passent ainsi. C'est dans le chapitre 41 que tous les fils de l'histoire commencent enfin à converger. On commence à discerner un sens au sein du chaos. Dieu maîtrise tous les détails. Comme nous avons vu dans notre lecture, c'est maintenant au tour du pharaon d'avoir deux rêves bizarres. Et comme M. Vin et M. Pain, le pharaon est troublé. Et lui, il a accès à des interprètes professionnels. Mais eux, ils n'arrivent pas à interpréter les rêves non plus. Arrive M. Vin. Ah, Ah, le pharaon a eu deux rêves bizarres. Ça me rappelle quelque chose. Attends, attends. Ah oui! Ah oui, il y avait ce jeune hébreu dans la prison qui avait interprété mes deux rêves. Ah mince, je l'avais oublié. Mieux vaut tard que jamais. Et enfin, Joseph sort de la prison. Il a dû attendre 2 ans. Mais cette rencontre avec Monsieur Vin et Monsieur Pain n'était pas une fausse piste, après tout. Enfin, Joseph voit la lumière au bout du tunnel. Enfin, il a dépassé le point le plus bas de la courbe. Et les choses changent très vite ici. Imaginez-vous, vous vous levez le matin, vous êtes souillé, barbu, oublié dans une prison à moins que rien. Et quelques heures plus tard, vous êtes lavé, rasé, revêtu de nouveaux vêtements, et vous vous tenez dans la présence de l'homme le plus puissant du monde. Quel renversement de circonstances! Et ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu maîtrise tous les détails. Et Joseph a bien compris qui a la puissance ici. Ce n'est pas le pharaon qui est impuissant devant ce rêve. Ce n'est pas Joseph non plus. Vous voyez sa réponse au pharaon, verset 16. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il n'hésite pas, même devant l'homme le plus puissant du monde, de témoigner de la souveraineté de Dieu. Il sait ce que c'est Dieu qui lui a donné ce rêve et qu'il faut une explication. Alors que nous écoutons l'explication, nous commençons à comprendre que Dieu a non seulement orchestré ces événements pour sortir Joseph de la prison, mais pour accomplir un but plus grand encore. On connaît bien cette histoire, ces deux rêves bizarres qui semblent être tirés d'un film d'horreur. Cette belle vache grasse qu'ils ont mangée par cette vache maigre et laide. Et puis cette beau épi plein qui sont engloutis par cette épi vide et maigre. Et on voit à quel point le pharaon est perturbé par ce cauchemar. Vous voyez ça, il dit, les vaches maigres les engloutirent dans le ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées et leur apparence était laide comme auparavant. Il est dégoûté par le rêve. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentaient cette année d'abondance. Et les 7 vaches maigres et les 7 épis vides représentaient cette année de famine. Encore une fois, Dieu est puissant pour révéler ce qui va se passer. Mais plus que ça, c'est Dieu lui-même qui va faire surgir ces événements. Verset 25, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dieu donne l'abondance. Dieu envoie la famine. Dieu maîtrise tous les détails. Mais c'est ici que les divers fils de l'histoire de Joseph commencent à converger. Car si Dieu a révélé ce qu'il va faire, c'est parce qu'il veut aussi pourvoir la solution. La souveraineté de Dieu n'est pas une raison pour la passivité. Joseph comprend bien que si Dieu a donné à Pharaon ce rêve, c'est pour qu'il puisse agir. Il propose donc immédiatement une solution. Il faut choisir un homme sage qui va prendre 20% des récoltes pendant les 7 années d'abondance pour qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les 7 années de famine. Simple. Et le pharaon est impressionné par cette proposition et par la sagesse de Joseph et il accorde immédiatement à Joseph cette responsabilité. C'est ainsi que les souffrances de Joseph prennent fin, arrivent à leur terme. Et c'est ainsi que Joseph sauve la nation d'Égypte de la destruction. Et nous ne pouvons pas arrêter la main de Dieu derrière cela. Tout ce qui s'est passé, toutes les souffrances de Joseph, toutes les fausses pistes, tous les fils qui s'emmêlaient, Dieu maîtrisait tous les détails pour que Joseph arrive devant le pharaon à précisément le bon moment pour sauver l'Égypte. Et comme Joseph dit à ses frères dans Genèse 50 et verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Si vous avez déjà déménagé, ce qui était le cas pour Kezia hier, vous connaissez la confusion qui règne les jours juste avant le déménagement, les cartons sont partout, on dirait que c'est le chaos. Mais en fait, tu maîtrises les détails. Vous allez peut-être me dire, non, quand moi je déménage, c'est le chaos. Mais on espère quand même, en principe, vous avez une liste, vous savez où vous avez placé chaque objet, ça semble être le chaos, mais vous avez le contrôle. Et une fois que vous avez déménagé, vous allez reconstruire une nouvelle maison. Et oui, parfois, il faut déconstruire, il faut créer le chaos pour reconstruire quelque chose de plus beau. Et parfois, Dieu doit déconstruire quelque chose. Il va créer le chaos pour par la suite reconstruire quelque chose de plus beau. Dans les joies ou les peines, Dieu maîtrise tous les détails pour accomplir ce qu'il veut faire. On prend quelques exemples. Il y a quelques années, l'État islamique est vaincu. Dieu maîtrise tous les détails. Le Taliban prend le pouvoir en Afghanistan. Dieu maîtrise tous les détails. Des avancements médicaux sauvent beaucoup du cancer. Dieu maîtrise les détails. Une pandémie ravage le monde. Dieu maîtrise les détails. Des millions de gens se convertissent en Chine. Dieu maîtrise les détails. L'Église en Belgique reste minoritaire et méprisée. Dieu maîtrise les détails. C'est déjà très bien de comprendre que Dieu maîtrise les détails, mais ce serait encore mieux si on pourrait comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et nous verrons dans les semaines à venir les buts de Dieu dans l'histoire de Joseph, mais nous voyons déjà dans notre passage le début de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et ce n'est rien d'autre que l'accomplissement des promesses qu'il avait faites à Abraham. Grâce à cette tournure des événements, la famille de Jacob arrivera en Égypte et sera sauvée de la famine. Et ainsi, les descendants d'Abraham deviendront un grand peuple béni par Dieu. Et il y a plus encore, grâce à cette tournure des événements, la nation d'Égypte est sauvée de la famine, ainsi que les nations avoisinantes, exactement comme Dieu avait promis à Abraham que sa famille deviendrait une bénédiction pour les nations. Et tout cela parce que Joseph a été vendu en esclavage, jeté en prison, et parce qu'il a rencontré M. Vin et M. Pain. Dieu maîtrise tous les détails, mais pas pour n'importe quel but, pour apporter sa bénédiction promise. Et il y a plus encore, le rôle de Joseph dans ce passage nous apprend beaucoup sur ce que Dieu est en train d'accomplir. Dieu a un projet non seulement de bénir son peuple, mais de le faire par l'intermédiaire de l'homme qu'il a choisi. Tout au long de l'histoire, Dieu prépare Joseph pour être le chef, le sauveur. Par exemple, il révèle à Joseph qu'il va diriger. Il est avec Joseph et lui accorde l'honneur, même dans les moments même dans les moments les plus bas. Il accorde à Joseph l'interprétation des rêves. Il suscite un homme, Joseph, qui cherche à l'honorer, à servir les autres. Il suscite un homme qui n'a pas peur de témoigner devant le pharaon de la puissance de Dieu. Il accorde à Joseph la sagesse, le pouvoir de mettre en place ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de la famine. Par la main de Joseph, et Joseph seul, Dieu sauve son peuple ainsi que les nations. Et il accorde à Joseph d'être honoré par tous les peuples. Vous voyez, tous les fils de l'histoire convergent non seulement sur la bénédiction, mais sur Joseph. Dieu maîtrise tous les détails pour mettre en place son roi sauveur. Vous voyez où on va avec cette histoire? Cela a toute pertinence pour nous. La bénédiction dans ce chapitre n'est qu'une ombre de la bénédiction ultime. Joseph n'est qu'une ombre du roi sauveur ultime. On arrive au Nouveau Testament et Dieu maîtrise toujours tous les détails pour apporter la bénédiction promise par son roi sauveur. Comme dans l'histoire de Joseph, tout semble aller à l'encontre des projets de Dieu. La nation d'Israël est sous le pouvoir des Romains. Aucun signe de la réalisation des promesses depuis 450 ans. Quelle attente ça! Et puis Jésus arrive et on croit que le roi sauveur est enfin arrivé pour apporter la bénédiction promise. Comme pour Joseph, les espoirs, les attentes sont suscités et puis déception. Comme Joseph, Jésus est haï par ses frères, attaqué et maltraité, faussement accusé, arrêté et au final crucifié. Encore une fausse piste, des fils qui s'en mêlent sans qu'on puisse en comprendre le sens. Mais non, Dieu maîtrise tous les détails pour susciter son roi sauveur. Vous voyez la main de Dieu dans l'histoire de Jésus? Dieu avait révélé par avance que Jésus allait régner et sauver. Il est avec Jésus et lui accorde sa faveur même dans les moments les plus bas. Il suscite un homme, Jésus, qui l'honore et qui bénit, qui sert les autres. Il suscite un homme qui n'a pas peur de témoigner de la puissance de Dieu devant les pouvoirs humains. Il accorde à Jésus la sagesse et le pouvoir de résoudre le problème du péché. Il suscite les ennemis de Jésus à précisément le bon moment pour l'arrêter, l'accuser, le maltraiter, le crucifier. Il ordonne même que tout cela passe au moment de la Pâque pour qu'on puisse comprendre que Jésus est l'agneau sacrifié. Il maîtrise tous les détails. Et pourquoi? Parce que Jésus, et Jésus seul, à la croix, prend la punition que nous méritons pour nos péchés. Parce que par Jésus et Jésus seul, Dieu sauve les gens de toutes les nations, tous ceux qui se repentent et placent leur foi en lui pour le pardon des péchés. Par Jésus et Jésus seul, Dieu apporte la bénédiction promise, la réconciliation avec Dieu, et il accorde à Jésus l'honneur de tous les peuples. Vous voyez, tous les fils de l'histoire convergent sur Jésus. Dieu maîtrise tous les détails pour mettre en place son roi sauveur. Et ce n'est pas comme si ce projet a cessé aujourd'hui. Si Dieu maîtrise tous les détails aujourd'hui, c'est pas pour n'importe quel but. C'est toujours pour apporter la bénédiction promise par son roi sauveur. Et cela est très important, je veux que vous saisissiez ce point. Nous sommes souvent perplexes lorsque les fils de notre vie sommeillent. Mais c'est peut-être parce que nous oublions ce que Dieu est en train d'accomplir. Nous pensons parfois que Dieu a promis de nous bénir d'un point de vue matériel, ou de nous épargner toute souffrance. Et quand les choses ne se passent pas comme nous on veut, on se demande si Dieu est vraiment aux commandes. Mais qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir dans ce monde? Il est en train de sauver les nations, d'amener les gens à la repentance et à la foi en Jésus, d'accorder aux chrétiens toute bénédiction spirituelle, de nous transformer à l'image de son roi sauveur, de nous garder pour le jour du retour de Jésus où il accomplira toutes ses promesses, de nous faire entrer dans un monde sans souffrance, de réunir toutes choses sous le règne de son roi. Si Dieu maîtrise tous les détails, ce n'est pas pour n'importe quel but, mais pour apporter la bénédiction promise par son roi sauveur. Et cela change radicalement notre perspective. Quand les fils de nos vies semblent s'emmêler sans qu'on puisse en comprendre le sens, quand tout espoir semble être une fausse piste, n'oublions pas ce que Dieu est en train d'accomplir. Les fils de notre histoire ne convergent peut-être pas d'une manière que nous trouvons satisfaisante, mais les fils convergent quand même sur Jésus. Je vous donne quelques exemples. À l'université, je connaissais une fille qui était paralysée à partir de la taille. On l'appellera Sarah. Du point de vue humain, ce sont des fils qui s'emmêlent. Aucun sens, une fausse piste, un désastre. Mais Dieu maîtrisait tous les détails pour accomplir son projet. Dans la souveraineté de Dieu, Sarah a commencé à aller à l'église. Dans la souveraineté de Dieu, elle a participé à une étude publique sur l'homme paralysé dans Marc 2, où Jésus privilégie le pardon de ses péchés avant sa guérison. Dans la souveraineté de Dieu, Sarah a compris que son péché était un plus grand problème que sa paralysée et a mis sa foi en Jésus. Dans la souveraineté de Dieu, Sarah est maintenant une chrétienne mature qui amène d'autres personnes à mieux connaître Jésus. Et ce n'est pas mon intention de minimiser ses souffrances physiques qui doivent être terribles, bien sûr, mais Dieu avait une intention d'apporter une bénédiction même plus grande. Il faut dire que même si Dieu avait choisi de guérir Sarah, cela aurait toujours dans le même but d'apporter la bénédiction par Jésus. Joie ou peine, Dieu maîtrise tous les détails pour apporter la bénédiction par son roi sauveur. Un autre exemple, vous connaissez peut-être l'histoire du missionnaire Jim Elliot. Doué, passionné, il semble être destiné pour apporter l'évangile à une tribu perdue dans la forêt en Équateur. Mais lors du deuxième contact avec cette tribu, il a été violemment tué. Il a laissé une femme et une jeune fille. Il avait l'âge de 29 ans. Les journaux américains disaient que c'était un désastre. Mais dans la souveraineté de Dieu, sa femme Elisabeth est retournée à cette tribu pour leur expliquer l'évangile. Et beaucoup ont été sauvés. Dans la souveraineté de Dieu, Elisabeth a publié les journaux de son mari qui continuent à bénir et inspirer beaucoup de personnes 60 ans plus tard. Dieu maîtrise tous les détails pour apporter la bénédiction par son roi sauveur. Ou notre propre Église, qui a dû subir tellement de bouleversements depuis le début du confinement de COVID. Du point de vue humain, les fils, ce sont des fils qui s'en mêlent, aucun sens. Et pourtant, grâce à nos cultes en ligne, Dieu a fait grandir notre Église. Il maîtrise tous les détails pour apporter la bénédiction par son roi sauveur. Quand moi je suis allé à l'université, on m'a envoyé, par hasard, dans une résidence estudiantine. Et c'est dans cette résidence que j'ai rencontré quelques chrétiens avec qui je suis allé à l'église, où j'ai compris l'Évangile pour la première fois. C'est dans cette résidence que j'ai rencontré une jeune femme suisse sans qui je ne me serais jamais fait former pour un ministère francophone. Dieu maîtrise tous les détails pour apporter la bénédiction par son roi sauveur. Même les petits détails, quand votre smartphone meurt pour du bon, comme c'était le cas pour moi il y a 2 semaines, ou quand vous arrivez tard au travail à cause des bouchons, ou quand vous laissez tomber un pot de sauce tomate par terre, comme Fiona a fait cette semaine. Est-ce que vous croyez que Dieu maîtrise tous les détails? Quand les fils de votre vie s'emmêlent sans qu'on puisse en comprendre le sens, rappelez-vous, Dieu maîtrise tous les détails. Peut-être pas pour résoudre tous vos problèmes, mais pour faire quelque chose de bien mieux, pour te sauver, pour te bénir en Jésus, pour te transformer, pour te garder, pour te faire une bénédiction pour les autres. N'est-ce pas un grand réconfort, ça? Mais je dois finir avec une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à discerner en quoi un tel événement contribue à cette fin? Si on ne voit que des fils qui s'en mêlent et des fausses pistes? Pourquoi est-ce que Dieu a permis tout récemment à des amis à nous, pas dans cette église, ailleurs, à perdre le bébé à 20 semaines de grossesse? Je ne vois pas encore à quoi cela fait avancer les projets de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Noah n'arrive pas à avoir son visa? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tous nos efforts pour trouver un nouveau bâtiment n'aboutissent à rien? Ne serait pas avantageux pour le royaume de Dieu que nous ayons un nouveau bâtiment? Ou qu'en est-il du décès de notre frère Edward Nelson, qui a laissé une famille sans papa et une église sans pasteur? Je ne vois pas encore en quoi cette tragédie fait avancer les projets de Dieu. Oui, parfois nous sommes toujours dans la prison avec Joseph. Nous vivons dans un monde de souffrance, que ce soit des gros fardeaux ou des petits défis quotidiens. Nous attendons la pleine réalisation des promesses de Dieu lors du retour de Jésus. Et entre-temps, laissons-nous inspirer de l'exemple de Joseph. Ne perdons pas notre foi à cause des circonstances. Dieu est avec nous dans la prison. Dans l'épreuve, nous avons sa faveur. Et comme pour Joseph, Dieu nous a révélé ce qu'il va faire. Nous avons sa parole et ses promesses. Nous nous accrochons à cela. Et comme Joseph, nous n'attendons pas d'une manière passive. Nous saisissons les opportunités pour servir là où Dieu nous a placés. Vos circonstances ne sont vraisemblablement pas ce que vous auriez choisi. Vous ne voyez pas en quoi les circonstances font avancer les projets de Dieu. Peut-être que Dieu va vous sortir de la prison d'une manière dramatique et vous serez, par votre témoignage, beaucoup de gens seront sauvés. Ou peut-être qu'il va vous laisser dans la prison. Peut-être qu'il y a quelqu'un à bénir dans les ténèbres de la prison. Un jour, nous comprendrons comment les fils convergent. Mais pour l'instant où qu'il nous est placé, nous sommes là pour honorer le roi sauveur. Dans les joies ou les peines, Dieu maîtrise tous les détails pour apporter la bénédiction promise par son roi sauveur. Merci de prier avec moi. Seigneur, on te remercie pour ta souveraineté. Toi, tu maîtrises tous les détails. Nous te demandons pardon pour les fois où on doute. Merci de nous accorder la foi de reconnaître que tu maîtrises les joies et les peines, et pas pour n'importe quel but, mais pour nous apporter la bénédiction en Jésus-Christ. Et même si nous ne voyons pas en quoi les circonstances contribuent à tes projets, que nous puissions, avec Joseph, nous accrocher à tes promesses et que nous puissions te servir là où tu nous as placés. Et on prie au nom de Jésus. Amen.